Ça y est, tu enregistres là?
Bonjour, c'est l'heure du documentaire et dans cette semaine de témoignages, nous posons aujourd'hui la question de la masculinité. Michel-Ange Vinti, en 2013, nous avait confié ce projet venu d'un questionnement sur sa propre masculinité. Il écrivait avoir le sentiment qu'elle n'était pas innée, mais qu'au contraire, elle résultait d'une construction parce que, je cite, « Je suis homosexuel. C'est un sujet dont les homosexuels parlent peu, mais qui est omniprésent sur les sites de rencontres notamment. Pour tenter de répondre à cette question, je suis allée, à titre d'expérimentation, à la rencontre d'une dizaine de garçons, des amis d'amis. Chez tous ces homosexuels, il y a une spécificité, parce que les hétérosexuels subissent eux aussi l'injonction d'être masculins, mais vis-à-vis de la société uniquement, et pas pour dissimuler leur sexualité contre nature, entre guillemets, et encore moins pour plaire à d'autres hommes, parce qu'il faudrait être masculin. » Fin de citation. Pour Sur les docks, Michel-Ange Vinti et Christine Robert ont rencontré, souvent devant un miroir, une dizaine de garçons, incarnant qu'il n'y a pas une seule façon d'être un homme, et encore moins d'être masculin.
C'est mignon chez toi. Hein.
C'est tout petit, ça fait un an que j'habite ici, mais, ouais, mais ça va, ça me plaît le quartier, en fait.
Ouais. Tu sais que t'as du rouge à lèvres sur les dents.
Oh, j'en ai mis trop. Je vais allumer une cigarette, vas-y. Si ça vous dérange non. pas.
Je me rends pas forcément compte moi-même, mais on me le dit parfois. Enfin, que je suis très masculin pour mon âge. Pour un PD de 20 ans.
Voilà. Tu pourrais me passer le cendrier, s'il te plaît? Merci beaucoup.
Les gens me disent toujours un peu... c'est un peu trivial, mais c'est un peu vulgaire, peut-être. Que je fais pas homosexuel. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je crois que je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que je n'ai pas de signe ostentatoire de féminité, enfin pas direct en tout cas, pas directement. Après, est-ce que dans la tête des gens, être homosexuel, c'est avoir un sac à main féminin et puis rouler du cul, j'en sais trop rien, mais en tout cas je suis homosexuel et puis je me décris comme masculin, oui. Enfin, et féminin aussi sans doute, mais...
Oui. Donc, maintenant, je me regarde dans le miroir. Je vois que mon boucle d'oreille est mal placé, donc je le corrige. Puis, je regarde que c'est la même forme que mon collier, et j'aime beaucoup ça. Je l'ai fait exprès, en fait. Je le confesse. Je regarde aussi que j'aime beaucoup mes cheveux aujourd'hui. Et que je suis... j'ai un air très tranquille. Malgré le fait que je ne prends plus d'essentialitique.
Et tu te définis comme une personne féminine?
Je me définis comme une personne féminine, aussi masculine. Je pense que il ne faut pas concevoir la féminité et la masculinité comme étant dans une ligne binaire, mais dans des décrets. Je pense que le genre, si tu veux, c'est comme le vent. On peut le conditionner, mais il est libre par nature.
Masculinité homosexuelle. Un documentaire de Michel-Ange Vinti et Christine Robert. Peut-on être homosexuel et masculin? Comment se construit-on au masculin? Quels sont nos modèles? Un père? Le frère? En tant qu'homme, pourquoi devrais-je taire ma part de féminité? Que mettons-nous en avant de la masculinité pour séduire un autre homme? Quelle est la part du désir et des rêves? Des garçons sensibles témoignent devant le miroir.
Bonjour, Olivier. J'ai 39 ans. On est dans ma salle de bain. Je suis face au miroir. Alors, je suis un homme grand, 1m80, barbu, j'ai les yeux bleus, j'ai plus beaucoup de cheveux, j'ai les oreilles percées, j'ai les yeux en amande, je suis à l'aube de la quarantaine, donc je vois des petites rides autour. J'ai toujours eu plus ou moins la barbe, même si c'était une barbe très courte. J'ai rarement été rasé de près.
Est-ce que tu penses qu'elle te rend masculin?
Ah oui, complètement. Je suis de toute façon poilu. Et voilà, et la barbe, c'est une continuité du reste de mon corps.
Est-ce que tu te définirais comme masculin?
Oui, bien sûr. 100% masculin, sans doute pas. Et j'en suis content. Mais bien sûr, oui, je suis masculin.
Mais est-ce que tu te vois masculin?
Oui, je me vois masculin. Les autres, pas forcément.
Mais pourquoi? Les autres, pas forcément.
J'ai eu des expériences qui me font dire que certaines personnes ne me trouvent pas masculine. Masculin, plutôt. C'est intéressant comme lapsus. Mais ce que je suis aujourd'hui, je pense que j'ai su trouver ma masculinité. Mais je l'ai cherché.
Physiquement, je suis une personne avec un regard très intense, je pense. Quand je me regarde au miroir, c'est toujours les yeux qui m'attirent, au premier abord. Tu vois, et puis ensuite c'est mon visage plutôt. Je pense que je suis une personne physiquement pas très haute, pas très grosse. Je n'aime pas trop parler du physique parce que je pense qu'on rentre dans des catégories et j'essaie toujours de m'en sortir des catégories. Bon, je viens du Chili, de la capitale Santiago. J'ai grandi à Santiago du Chili. Et je m'appelle Manuel. J'ai étudié dans un lycée d'hommes, parce que ça existe encore au Chili. Des lycées qui sont séparés hommes et femmes, comme ça existait à l'époque ici en France. C'est, disons, le plus important du Chili. C'est un lycée qui est né avec la République, donc il y a beaucoup d'années. Beaucoup de présidents sont sortis de ce lycée. Et ma masculinité a toujours été un sujet problématique. Depuis la petite enfance, j'aimais bien jouer avec les robes, malgré le fait que ma mère ne soit pas une femme très féminine, elle est plutôt masculine. Mon père, par contre, c'est une personne, je ne dirais pas féminine, mais il est très doux. C'est quelqu'un de très diplomatique, neutre, en parlant de genre, tu vois. Il ne fait pas des performances de sa masculinité, pas du tout. Ma mère, elle fait encore plus des performances de sa masculinité que mon père, par exemple. Au collège, les profs, ils s'inquiétaient beaucoup du fait de ma personnalité et ils convoquaient mes parents pour leur dire qu'il fallait prévenir une potentielle homosexualité de ma part, donc il fallait faire un travail psychologique. Au lycée, cela est devenu pire parce que je suis une personne qui réagit. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi encore, mais je ne me laisse pas faire. Et au collège, on était un petit groupe, principalement deux personnes. C'est un collège-lycée, hein. C'est pour ça que je parle parfois des collèges et du lycée. On nous empêchait d'aller dans les toilettes des hommes pendant les heures de la récréation, parce que cela a été perçu comme une provocation à l'égard des autres, de marcher, de bouger trop les hanches, de nous maquiller, d'avoir les cheveux longs, et nous, on a toujours refusé cela. Pour l'anniversaire du collège, qui avait assez, il faut que je me rappelle, c'était 190, nous, on a décidé d'aller habiller en femme. En femme fatale, avec des hauts talons, avec des perruques très longues, pour dire que, qu'on était là, qu'on était présent et qu'on n'allait pas se taire, on n'allait pas se calmer. Parce qu'on était folles en colère contre ces systèmes oppresseurs. Et je suis parti un peu pour ça, du Chili, parce que il y a toujours une limite qu'on nous mette. Et je suis venu en France, à la conquête d'autres espaces plus libres.
Et si tout s'est bien passé?
tout s'est bien passé. Non, non. J'ai rencontré d'autres problèmes. Et je me suis rendu compte là que ce n'était pas un problème chilien, mais c'est un problème du système.
Je m'appelle Jérôme, j'ai 26 ans et je ne me considère pas comme le prototype que les gens attendraient de la masculinité en général. Parce que déjà, il me semble qu'on attend d'un homme qui soit fort et moi je ne me considère pas fort, je me considère faible. Je me considère très fragile, même parfois à fleur de peau. Et j'ai aucun souci avec ça, en fait. Enfin, avec mon côté limite fleur bleue, je trouve que c'est une force, en fait. Pour moi, c'est ça qui fait de moi un homme, en fait. C'est ma fragilité.
Pendant mon enfance, les filles exerçaient un pouvoir de fascination sur moi. Je les admirais beaucoup, j'aurais vraiment aimé être une fille, je pense, quand j'étais enfant. Je les trouvais belles, j'aimais les cheveux longs, j'aimais les robes. Et évidemment, très vite, on m'a fait comprendre que c'était très dérangeant, socialement. Et sans qu'on m'interdise les choses, on me faisait comprendre que c'était quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Je le vivais mal, c'est-à-dire que j'avais l'impression qu'on me privait d'une liberté, de ma liberté d'être, on me privait de jeux que je voulais faire, parce que c'était déjà une question de regard, c'est-à-dire la manière dont on me percevait.
Et donc une injonction à être masculin.
Alors, une injonction à ne pas être féminin, plutôt. Bizarrement, je pense que les autres enfants, que ce soit des garçons ou des filles, m'acceptaient comme j'étais. Les autres garçons, le fait que je ne veuille pas jouer au foot, ça les dérangeait pas plus que ça. Et puis les filles non plus, elles étaient plutôt contentes. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de... C'était le monde des enfants, et dans le monde des enfants, il n'y a pas vraiment les règles des adultes. Par contre, effectivement, entouré d'adultes, je sentais que la manière dont j'agissais, et c'était pas uniquement une question de féminité, mais un trop de sensibilité, c'était mal perçu, et on me le faisait sentir. En tout cas, je le ressentais. Je sais pas si on essayait de me le faire sentir volontairement. On me faisait des remarques, si, parfois. J'étais très sensible à tout ce qui touchait à l'artistique. J'écrivais beaucoup. Quand j'étais en primaire, j'adorais les rédactions. J'écrivais des petites nouvelles. J'étais attiré par les arts. Et rien que ça provoquait une gêne, parfois. J'écrivais des textes, et quand ma famille était réunie, j'avais envie de les lire. C'était des choses très, très innocentes. Dès que j'étais réuni, il y avait des réunions de famille avec mes cousins, on organisait des petits spectacles, des choses comme ça. Mais c'était déjà perçu comme quelque chose d'anormal, en fait. Et de... qui se faisait pas. Et je le sentais. Mes parents sentaient que je sortais du cadre, déjà. Et très égoïstement, très égoïstement, ça les gênait par rapport aux autres, à leurs amis. Ma mère, quand je lui ai annoncé que j'étais homosexuel à 18 ans, m'a dit « Qu'est-ce que vont penser les gens ?»
Je m'appelle Kevin, j'ai 26 ans, je suis tout récemment parisien, donc breton d'origine. Je viens d'une famille très ouvrière, un peu froide. Je me souviens que ma mère m'a fait l'aveu récemment. Elle m'a dit que pendant une kermesse, il fallait qu'on trouve un déguisement. Il n'y avait pas de thème donné par la maîtresse cette année. Je devais avoir 6 ans. C'était au CP, donc je suppose que c'est 6 ans. Elle m'a dit, je vous ai demandé en quoi vous voudriez être déguisé, toi et ta sœur. Ta sœur m'a dit quelque chose, je me souviens plus. Et toi, tu m'as dit en fée. J'avoue que j'y ai pas vu de problème particulier. D'ailleurs, j'hallucine qu'elle me dise ça aujourd'hui, qu'elle ait pas vu de problème particulier. J'étais donc déguisé en fée, je suis arrivé en juin, devant toutes ces mamans qui m'ont regardé avec des yeux gros comme des billes. Et elle m'a dit, moi je voyais pas le problème, un peu sotte, un peu naïf, tu vois, comme ça. Et mon père, lui, rentrait justement de ses missions militaires, il est devenu fou. Elle était en train de faire un PD, quoi, selon lui.
Donc ton père, Kevin, t'envoyait une image de garçon pas masculin, ou du moins.
Ah ouais, bien sûr. Bien sûr, parce que, bon, voilà, c'était un militaire... C'est quelqu'un qui jouait vachement au rugby, qui était très, très, très masculin comme il l'entendait lui. C'était très viril, avec des poussées viriles comme ça. Ouais, il me renvoyait une image de moi plutôt négative. Enfin, à changer en tout cas. Il fallait que je change quelque chose selon lui. Que je devienne plus masculin, que j'arrête d'être une pédale. Il me donnait des définitions de mec très premier degré. Mais regarde-toi là comment tu marches. Mais t'es pas une gonzesse, mais. Mais on va faire de toi une gonzesse, c'est pas possible. Mais fais du sport, c'est les mecs qui font du sport, tu vois. Il cherchait pas midi à 14h, tu vois. Il disait juste, voilà, t'es pas un mec et ça va pas. Il y a quelque chose qui tourne pas rond chez toi. Et j'ai honte de toi, même.
On peut peut-être aller devant le miroir.
Physiquement, je dirais que j'ai un surplus de masculinité qui des fois m'a pas mal dérangé. Bah, je suis beaucoup plus poilu que la normale. Je suis assez.
Disons que t'es un nounours.
Je suis un nounours. Certains m'ont dit un singe. Bon, tout à fait le stéréotype du bear. Quoi dire d'autre? Je m'appelle Oreste. J'ai 52 ans. J'ai commencé à m'autoriser à pleurer quand j'avais 18-20 ans, quand j'étais ému. Alors que il était interdit de pleurer. Un homme, ça pleure pas. Et aujourd'hui, je dirais que maintenant, quand il y a l'émotion qui est là, je la laisse venir. Un film, une histoire, un geste, des fois un geste dans la rue de deux inconnus, ça peut me toucher et ça peut m'émouvoir. Et je dirais peut-être, je rentre en rébellion contre mon père à ce moment-là, quoi. Ouais, quand je reviens à mon père qui me disait, ouais, on pleure pas, si tu continues à pleurer, je te frappe, je te tape. Je me faisais violence. Et puis après, moi-même, je devenais mon propre censeur en me disant, non, tu pleureras pas. Et t'es dur, t'es fort, et puis... c'est une faiblesse d'être fort, quoi.
Dans le miroir, je me sens plus beau avec une barbe. Mais peut-être parce que ça cache une partie de mon visage aussi. Je ne sais pas ce que ça peut cacher. Ça peut cacher beaucoup de choses. Des choses qu'on ne veut pas montrer. Surtout quand j'étais enfant, je rougissais beaucoup. J'étais un grand timide et c'était horrible pour moi parce que ça voulait dire que je ne pouvais pas contrôler un sentiment. Et en tout cas, je ne pouvais pas cacher un sentiment. Que ce soit la honte, la gêne, le... Et voilà, et peut-être que ma barbe cache une partie de mes rougissements.
Je suis une jolie fille d'Alger, en gants blancs et jupe plissée. J'habite dans la rue Michelet, chic avec ma mère. Je descends les boulevards le soir de mes 20 ans. Les garçons assis aux terrasses sifflent et m'appellent quand je passe. Amour à nous cette cha-cha, ils ne pensent qu'à ça. Cha-cha, jolie fille d'Alger, cueille la fleur d'oranger. Cha-cha-cha, jolie fille d'Alger, donne-moi un baiser, jolie fille d'Alger.
Alors, je m'appelle Mehdi, j'ai 20 ans, je suis étudiant en lettres et en théâtre à Paris. Alors, ce que je vois...
Tu enlèves ton bonnet.
Ouais, j'enlève mon bonnet. Je vois un mec grand. Qui se laisse pousser la barbe. Clairement rebeu. Qui porte un t-shirt bleu. Mes épaules... Qui ont gonflé il y a 2 mois... Sans comprendre pourquoi, j'étais en pleine croissance, je pense. Avec un pantalon, taille droite, je ne porte plus de slim. Putain. Et des Doc Martens, qui sont masculines et qui, je pense, me donnent une certaine allure. Je commence à essayer d'apprendre à m'aimer. Quand je me vois ou quand je m'imagine, enfin quand je me souviens de comment j'étais au collège ou au lycée, je sais que j'étais relativement obsédé et retourné par les grands mecs de terminale, très nonchalants, très grands manteaux, très et puis souvent seuls, enfin des mecs qui étaient souvent seuls, pas forcément les mecs les plus cools du lycée, mais que moi je repérer en fait, auquel je voulais ressembler, que moi je me considérais toujours comme quelqu'un de très efféminé, je sais que j'avais une sorte de modèle masculin que je voulais atteindre, je pense, ouais. Mon frère, par exemple, j'avais le modèle de mon frère ou de mon père, mais surtout mon frère qui, lui, représentait l'hyper-masculinisation très viril, toujours dans la virilité, toujours dans des valeurs... je peux dire machiste quand même, par rapport à la femme, dans un cadre rebeu en particulier. Arriéré par rapport à tout ce qui est religion, tout ce qui est considération de la femme, considération de la femme idéale. Des choses qui me parlaient pas, que je trouvais... Oui, stupide, clairement stupide. Je sais que par rapport à mon frère, je revendiquais le fait d'être différent, voire opposé de lui. Enfin, lui, par exemple, était barbu, j'étais imberbe. Il avait pas de cheveux, je laissais pousser mes cheveux. Il portait des gros pantalons larges, je portais des slims. Enfin, je faisais tout pour ne pas lui ressembler et être différent de lui. Je rejetais ce qu'il était parce que je le trouvais débile. Cette obsession de la masculinité, ce désir d'être toujours puissant, d'être supérieur, d'avoir toujours raison, d'avoir des choses que je méprisais beaucoup à l'époque et qui me dégoûtaient vraiment. Bon, aujourd'hui, on a des rapports qui ont beaucoup changé parce que j'ai compris que ça faisait partie d'une construction particulière, dans un cadre particulier. Donc,
celle de la famille rebeu.
La famille rebeu et de la banlieue, l'impact de la banlieue surtout, parce que... Il faut être le coq, il faut être le plus fort, il faut faire partie des plus forts et du gang des plus forts. Donc, si t'es faible, si tu montres ta faiblesse, donc moi, parce que j'étais relativement pas masculin quand j'étais plus jeune, tu es un peu l'objet de de remarques ou de regards, c'est-à-dire lui c'est une tapette ou enfin ce genre de choses quoi. Après, je sais que quand je décidais d'aller dans le lycée du centre-ville qui n'était plus le lycée de la banlieue, on me foutait clairement la paix parce que j'étais plus dans le cadre d'un banlieue, j'étais plus dans le cadre assez étouffant où on doit tous jouer un rôle et qui correspondrait plus à mes années collège où j'étais un peu dans cette caricature du rebeu qui porte des TN et qui est super méchant et qui est super viril. Mais...
Toi, t'étais pas vraiment méchant et viril.
J'étais pas méchant, mais je pense que je voulais être viril, mais je pense que quand on veut être viril à cet âge-là, on est encore plus efféminé.
Moi, je m'appelle Gary et j'ai 31 ans. Je me souviens, j'avais 13-14 ans, j'habitais en banlieue et je restais avec des garçons. Je faisais des trucs de mecs avec des mecs et on se retrouvait entre potes et on avait tous des scooters et des mobylettes et on faisait des virées dans la ville. Et on se retrouvait, on ouvrait le garage, on aimait les scooters, on faisait un peu de mécanique, on changeait les pots, les filtres, les pots d'échappement et après... On allait draguer les filles à la sortie du collège ou du lycée. C'était un jeu aussi, je savais que j'étais pas vraiment à ma place, mais voilà, c'était plus, plus ce côté voilà, d'être avec des mecs, de faire des trucs de mecs. Quoi. J'ai appris ma masculinité à travers ça aussi.
Tu fais du sport?
Charité. J'ai plus envie d'avoir de muscles, je m'en fous en fait, mais c'est surtout. Et je pense que c'est surtout quand je suis peut-être en couple, où j'ai envie d'être relativement viril et. Où je fais attention à mon apparence physique. Après, quand je suis plus en couple, j'en ai rien à faire.
Allez, jouez ! Richard
Allez ! Donc la masculinité sert à attiser le désir.
Clairement. Moi, j'ai pas envie de faire du sport.
Est-ce que t'as un petit ami, Manuel ?
Non, non, je n'ai pas de petit ami. Non. C'est étrange, parce que le mec avec lequel je suis sorti, ils disent toujours que je suis très masculin. Peut-être parce que dans ma façon d'être, il y a de traits qu'on dit qu'ils sont plutôt des traits d'homme, traits pas physiques, psychologiques, que... de femme, dans le sens que je suis parfois un peu autoritaire, j'aime bien décider, prendre des décisions, dire où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mange. Et dans ce sens-là, même si je me maquille, il y a toujours une autre partie qui sort.
Donc tu n'es quand même pas en train de me dire que tu es un petit macho latino?
Mais écoute, je viens de l'Amérique latine, je ne peux pas non plus, j'essaie de m'en sortir des catégories, mais pas tout à fait, je n'arrive pas tout à fait à le faire, malheureusement. Je suis une personne qui drague, mais d'une façon très délicate. C'est-à-dire que j'aime bien faire attirer les garçons, qu'ils viennent vers moi, je ne vais pas chez eux. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être, c'est ce qu'il dit ma mère, tous ces spectacles pour les attirer. C'est une stratégie très féminine. Exactement. Samedi, je suis allée à une fête. J'ai dansé, il y avait un garçon qui me plaît depuis très longtemps, et je l'ai vu, et il me regardait un peu, donc j'ai commencé à danser. Et à un moment donné, il était à côté de moi. Et il dansait à côté de moi. Et je me suis dit, tiens, je n'ai pas eu le besoin d'aller le chercher, de le regarder. J'ai juste dansé et il est arrivé à côté de moi. J'aime bien faire attirer les garçons.
Quand j'ai du désir sexuel, j'ai du désir vers un homme, vers moi aussi des images clichés de la virilité, clichés de la masculinité. Voilà, tu vois, quand je me masturbe, je pense à des mecs qui seraient bien gaulés, musclés, avec des têtes harmonieuses, très viriles. C'est exactement pas ce qui se passe dans la vraie vie. Je suis amoureux de mecs qui ont des physiques très différentes, qui peuvent être grands, petits, gros, maigres, ça n'a pas d'importance. Mais il y a quelque chose qui m'attire définitivement pas dans ma sexualité, c'est bien des mecs qui seraient outrancièrement féminins. C'est-à-dire avec des gestes très efféminés, ça me met mal à l'aise, moi-même, parce que je vais rapprocher ça d'une femme plutôt que d'un homme, et ce dont j'ai envie, c'est d'un homme.
Et est-ce que tu aimes les garçons outrancièrement, je reprends tes mots Kevin, outrancièrement masculins?
Non, pas du tout, pas du tout. En fait, j'aime pas la caricature, en fait. C'est un truc que... J'aime pas quand c'est joué, en tout cas. J'aime pas quand la relation est jouée. Ça m'excite pas de voir dans le mec qui va me casser en deux, je t'avoue. Ça m'excite pas de... Non, je trouve ça théâtral. Ça me fait débander plus qu'autre chose, ouais.
Je m'appelle Luc Fischer. J'ai 56 ans. Eh ben, je me vois comme je suis. Bon, ce matin, j'ai mis un t-shirt, j'ai mangé les cuirs, parce que j'aime bien le cuir, alors forcément, il faut qu'il y en ait un petit peu, surtout si je reçois quelqu'un, forcément, c'est indispensable. Le pantalon, oui, c'est un pantalon de cuir à lacets moulants, extrêmement agréable à porter. Quand je suis en cuir, je suis juste moi-même. Je dirais que ça me représente moi, parce que je suis gay et cuir depuis fort longtemps. En fait, je crois que ça doit dater à peu près de l'époque où je suis arrivé à Paris, à la fin des années 70, et où le premier bar gay, je savais pas trop ce que c'était que le monde gay à l'époque, et le premier bar gay dans lequel je suis rentré, c'était un bar cuir, et je me suis senti bien. La première relation SM, c'était assez marrant. C'était encore une époque où on avait des moyens archaïques, genre Minitel et trucs comme ça. Et j'ai traversé tout Paris, j'étais chez un garçon qui m'a reçu. J'étais en treillis. Le cuir, c'est cher. À l'époque, j'avais pas beaucoup de cuir. Et donc, à l'époque, j'étais en treillis militaire. Et quand je suis arrivé chez lui, alors... Moi, j'avais un peu l'habitude jusque-là des rencontres amoureuses traditionnelles, si je puis dire. Et puis là, bah non, il m'a emmené dans la cuisine. Tiens, un bon, pourquoi la cuisine? J'ai assez vite compris, parce que quand j'ai fini par me retrouver entièrement attaché sur une chaise. Mais jusque-là, bon. Je dirais, à la limite, on aurait pu faire ça ailleurs. C'est juste qu'après, il m'a pissé dessus.
Et qu'est-ce qui joue de la masculinité dans ces rapports sexuels faits de rapports de force, de domination, de soumission, physique et psychologique? Qu'est-ce qui se joue de la masculinité chez toi?
Mais je crois que c'est une... Il y a plusieurs choses. Il y a l'admiration du corps de l'homme. Aller à la rencontre d'un autre homme. Dans le rapport de force, il y a un peu quelque chose de l'ordre de l'épreuve, de la mise à l'épreuve, de la du défi, de quel que soit le rôle d'ailleurs qu'on a envie d'avoir dans ce dans le rapport avec l'autre, ça revient finalement au même en fin de compte, et c'est toujours la même chose, c'est en fin de compte une sorte de, au final c'est une recherche de soi-même, c'est-à-dire c'est peut-être un moyen d'essayer de se prouver qu'on est plus homme que l'autre, disons d'essayer de se mesurer, d'essayer de s'évaluer, d'essayer de montrer qu'on a quelque chose de proprement masculin.
Et pourquoi il y a besoin de se prouver ça ?
C'est un jeu.
Garçon-fille, petite dure, un peu menteuse, capricieuse. Garçon-fille, cherche et ne cherche pas, attendez-moi. Garçon-fille,
je crois que c'est là que je me suis posé toutes ces questions en fait par rapport à la masculinité, pas avant.
Regard qui réchauffe.
Quand j'ai eu une vraie sexualité, en fait.
Regard qui se glace. Regard.
Et au tout début, quand je suis arrivé dans cette sexualité, j'avais une vision très très archaïque un peu de la chose, avec l'homme qui domine, la femme qui se fait prendre, et donc pour moi, je pensais que la sexualité entre deux garçons se passait de la même façon. Donc je savais pas quelle place j'allais avoir ou je voulais prendre. Dans ce rapport à deux, j'y pense pas consciemment, dans le sens où un homme qui se fait prendre peut être très très masculin en ayant le rôle d'une femme dans ce qu'on m'a inculqué à la base, mais des fois il y a une sorte de dichotomie comme ça qui se crée dans ma tête où je vais être en, par exemple, si j'ai le rôle du passif, je vais être comme ça, me laisser aller, et tout d'un coup, il y a des sortes de choses qui surgissent, un peu l'éducation et du passé, et qui me font prendre conscience que je suis en train de faire la femme, et j'ai un petit peu pas de mal à l'assumer, mais il y a quelque chose qui va me freiner, et il faut que je reparte dans un autre moment de la même sexualité que la personne, pour me détacher de ces traces un peu de l'enfance, comme ça, qui vont surgir de temps à autre. Je pense que je sais pas si... Enfin, je le fais pas consciemment. C'est vraiment des choses qui remontent à une éducation. C'est vraiment ce côté vie paysanne dans lequel j'ai grandi, où t'as vraiment le rôle de l'homme qui va travailler, qui est fort, qui fait les travaux, la plomberie, quoi que ce soit, et la femme qui est plus beaucoup plus douce à s'occuper des enfants et un peu soumise. Donc, du coup, dans la sexualité, le soumis, pour moi, est la femme.
Querelle adore contempler son corps. On dirait qu'ils se mirent, s'admirent dans un grand miroir. Et ils se contemplent avec une effarante minutie sans cesse. Ils se scrutent dans les moindres détails comme un entomologiste. Quand son corps resplendit dans la gloire de ses gestes hautains.
Quelle image les autres garçons te renvoient de ta masculinité en tant que jeune rebeu ?
Je répondrais plus pour les mecs plus âgés qui ont créé un véritable fantasme autour de l'image du rebeu qui a une grosse bite et qui va te trouer le cul en te traitant de grosse salope de française, enfin n'importe quoi. Et je me suis retrouvé à plusieurs reprises devant des mecs qui me considéraient comme une sorte d'objet exotique. Ça m'exaspérait en fait de me retrouver à la place de la petite pute de Tanger que l'on prend, etc. Alors que non, je suis pas la petite pute de Tanger qui a pu correspondre à William Burroughs, à Francis Bacon ou à je ne sais plus qui. Enfin voilà.
J'ai longtemps été en butte à une sorte d'ostracisme dû à mes goûts particuliers. Je voudrais étreindre nu tous ces garçons contre mon corps et me sentir bouleversé de leur audace et de leur force. Je n'ose encore y croire et les larmes aux yeux, je rends grâce à Dieu de cette volupté. Mes larmes me plongent dans un profond trouble. Je fonds. Mes larmes ruissellent sur mes joues. Et je ne sais comment me cacher. Je fonds tout simplement de tendresse pour ces garçons aux épaules rondes et lisses, comme des cailloux.
Edouard, j'ai 28 ans, je bosse dans la presse mode, je fais de la direction artistique. C'est un bar dans lequel je viens souvent depuis longtemps, depuis l'ouverture quasiment, et c'est un bar que j'aime bien. J'ai l'habitude de venir avec mes amis ici, donc et en plus il y a des mecs mignons, donc c'est pas mal. Il y a toujours une bonne ambiance, j'aime bien ce bar, ouais.
Il y a des jolis garçons ?
Bah déjà, quand je rentre dans un bar, j'ai tendance à regarder un peu mes pieds, tout. Je fais un peu le mec, genre il est là, mais il est pas là, quoi. Parce que voilà, c'est peut-être par timidité ou par snobisme, je sais pas. Et après, je prends mes marques, je commande un verre et je commence à regarder qui y a ou qui y a pas. Bon, déjà, je drague pas énormément, mais ça m'est déjà arrivé de draguer ici un mec, je me souviens, qui arrêtait pas de me regarder, un mec que je croise souvent ici. Et mais c'est surtout un jeu de regard, ça, on s'est jamais vraiment parlé. Mais je sais qu'à chaque fois qu'on se voit, il se passe quelque chose. Mais c'est juste dans le regard. La prochaine étape, ce sera de se parler. Mais ce sera à lui à le faire parce que je suis trop timide. Je sais pas faire, c'est compliqué. Quoi. Enfin, qu'est-ce que j'irais lui dire Et j'ai peur aussi que, en allant lui parler, ça gâche tout en fait. C'est-à-dire que j'aime bien ce petit jeu de séduction. Je sais que je lui plais, sans prétention. Il me plaît, il doit le savoir. Et cette situation me plaît en fait.
Tu ne souhaites pas aller au bout du désir?
J'aime bien rester dans le fantasme en fait. Et j'ai souvent fantasmé sur des mecs comme ça pendant très longtemps. Ça m'est arrivé pendant des mois et des mois. Ça m'est même arrivé parfois de faire en sorte d'aller dans un bar en me disant il pourra être là et tout, je sais pas quoi. Et finalement d'aller parler à ce mec ou alors qu'il me parle et de plus du tout avoir envie. C'est vraiment, c'est un fantasme, c'est-à-dire que du moment où on a la personne et qu'on sait qu'on peut l'avoir, pas en claquant des doigts, mais facilement, disons, ben, j'ai plus envie, quoi. C'est un petit peu pervers, mais c'est le jeu de la séduction aussi, peut-être. J'ai peut-être un cerveau féminin, je sais pas. J'ai souvent pensé ça, moi, que j'avais un cerveau féminin. Je sais pas, même dans mes relations, depuis très jeune, j'ai l'impression de penser un peu comme une fille. C'est horrible de dire ça parce que je me sens homme, mais et je suis un homme. Mais j'ai souvent pensé que je raisonnais, que je réagissais comme une fille.
Est-ce que tu peux te regarder dans le miroir là derrière ?
Bah, je vois un mec un peu gringalet, c'est un de mes complexes. C'est prétentieux ce que je vais dire, mais depuis quelques temps, depuis quelques mois, je commence un peu à me plaire. Et je peux comprendre que quelqu'un soit attiré par moi. C'est assez récent, ça. C'est assez jouissif aussi. Mais bon, c'est toujours pas ça. Qu'est-ce que je vois d'autre ? Je vois quelqu'un un peu complexé. J'ai complexé pendant des années sur mes poils. Je suis pas poilu de partout, mais c'était un truc, j'avais du mal à me mettre nu devant un mec parce que je me disais qu'il allait pas du tout aimer mes poils. Alors que, quand tu vois que aujourd'hui la majorité des mecs aiment les poils et tout comme ça, tu vois. Mais à l'époque, je sortais avec un mec qui n'aimait pas du tout les poils. Je sortais avec lui pendant 5 ans Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'après, j'ai pas compris qu'un mec puisse aimer mes poils. Mais je vois quelqu'un de maigre, surtout. C'est le premier truc que je vois quand je me regarde dans une glace. Et ça me complexe énormément, ça. Alors, je fais rien pour, j'arrive pas à grossir, je fais pas de sport. Je fais très peu de sport. Mais ça a longtemps été un de mes plus gros complexes, ça, d'être gringalet. Même quand j'étais plus jeune. En plus, j'ai des frères qui sont baraques, j'ai des cousins qui sont baraqués aussi, donc... Je suis toujours complexé par rapport à ça. Je vois une petite chose quand je me vois. Ouais. Mais je me dévalorise beaucoup. Bon, après, je me suis laissé pousser la barbe. Ça m'a donné un peu d'assurance. Il se trouve que j'ai beaucoup de barbe. Donc voilà. Je me suis rasé les cheveux. Avant, j'avais les cheveux longs pour me donner un air un peu plus viril, disons. Et j'aime bien, ça va.
Regarde encore. Ma bouche, elle est aussi petite, mais mes lèvres sont quand même grands. Mes yeux sont comme des amandes. Et j'aime bien mes sourcils aussi, ils sont grands. J'ai les épiles un peu, mais pas beaucoup, juste le nécessaire. Mes cheveux varient toujours, parce que je pense que les cheveux, c'est la partie la plus importante du corps. C'est pas pour n'importe quelle raison qu'ils sont tout à nous du corps, tu vois. Et mes cheveux sont toujours, conditionnent ma vie, déterminent ma vie, dans le sens que si je ne suis pas bien coiffé, je ne sors pas dans la rue. Ou je mets un chapeau, je mets un bonnet, je mets quelque chose. Maintenant j'ai changé la coiffure, c'est un peu punk, je dirais. Cheveux noirs, rassés d'un côté, puis longs de l'autre. Maintenant j'ai fait des boucles. Des boucles, tu les vois?
Pas trop.
Mes pommettes, quand je souris, elles se gonflent. Et j'aime bien mon sourire aussi. J'ai construit une image de moi-même qui est différente de celle de la société, de cette civilisation au moins. Surtout dans le rapport de genre. Dans le sens que la catégorie homme masculin ne m'a jamais convenu. Je n'ai pas eu vraiment de plaisir à m'habiller comme un homme, dans le sens traditionnel de ce qui est la masculinité, n'est-ce pas? J'ai eu, disons, accès à un monde qui est le monde de la féminité, où il est très riche, il faut le dire, il est beaucoup plus riche que celui des hommes, dans le sens qu'il y a des détails, des objets. Je suis une personne qui apprécie beaucoup les objets. Et j'ai construit donc une personnalité et une image vestimentaire, physique, si tu veux, différente. Un autre choix, disons. Aujourd'hui, je suis allé à une pharmacie et on m'a demandé mon nom. J'ai dit Guevara, comme le Che, parce qu'ils ont du mal à comprendre, à l'écrire. Donc je dis comme le Che Guevara, tout le monde le connaît. Et puis il m'a demandé mon prénom et il a écrit Manuel, M-A-N-U-E-L-L-E. Et je dis non, c'est sans L-E à la fin. Elle a dit, ah mais vous venez pour votre mari alors? Je lui ai dit, non, c'est moi. C'est vous? Ah, ça s'écrit comme un garçon. Je lui ai dit, mais je suis un garçon. Et donc c'était marrant parce que il y a toujours des personnes qui n'écrivent pas bien mon prénom.
Ça t'arrive souvent, ça?
Ça m'arrive souvent, il faut le dire.
Tu t'en fiches ou...
Oui, je m'en fiche. Avant, je faisais beaucoup d'attention, j'ai corrigé tout le temps les personnes. Quand je rentrais dans une boulangerie, on me disait « bonjour madame ». Je prenais ça mal, je me disais « non, il faut que je fasse que je corrige les gens à m'appeler ces messieurs, ces garçons, etc. » Mais après, et même, je suis allé au-delà de ça et j'ai voulu changer aussi mon aspect physique. Parce qu'avant, j'ai porté les cheveux longs et j'ai coupé mes cheveux, histoire de avoir l'apparence d'un homme, quoi. Mais maintenant, ils sont continués après, donc ça n'a rien servi. Et je me suis dit, bon, il ne faut pas que je me pose des questions là-dessus. Je suis moi-même et je pense que ce n'est pas humiliant quand on te confond avec une femme. Il ne faut pas se sentir mal. Si on t'appelle madame, ce n'est pas pour une... pour te sentir mal à l'aise, c'est parce qu'une première impression peut te faire confondre. Et c'est, je joue aussi avec les genres, donc c'est, je ne peux pas m'attendre à être traité toujours comme un garçon, tu vois.
Ça ne dérange pas plus que ça.
Ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me dérange pas du tout.
Et pour revenir sur
parfois, ça me dérange parce qu'il y a des garçons dans des boîtes, dans des bars qui s'approchent à moi et qui pensent que je suis une fille. Alors là, ça devient plus compliqué parce que tu vois que les garçons sont en plein drague et donc il faut lui faire comprendre que je ne suis pas ce qu'ils veulent. Donc là, j'ai certaines techniques pour m'en débarrasser de ces dragueurs. Je joue. Mais le jeu, ça fait partie de la liberté. J'en ai marre des discours que les hommes doivent s'habiller d'une façon, les femmes doivent s'habiller d'une autre. Je me demande où est la valeur de la liberté dans toute cette discussion. Et je regarde avec une certaine tristesse que les hommes, tout au long de leur histoire, n'ont pas osé encore à porter des jupes, à se maquiller, à porter des rouges à lèvres. Et je trouve ça dommage, parce qu'ils ne renoncent pas à leurs privilèges. Il s'agit d'une question des privilèges. Et je pense que la masculinité, il y a des enjeux derrière la masculinité qui sont très importants et qu'il faut les déconstruire.
Quererme como yo te quiero a ti, lo dudo, lo dudo, que ella es un amor más puro como el que tienes en mí.
Masculinité homosexuelle avec Manuel, Mehdi, Kevin, Olivier, Jérôme, Oreste, Gary, Hugues, Édouard et Christophe.
Te darán de los placeres frenesí, mas no ilusión sincera como la que te di, lo dudo.
Prise de son, Yann Fressy. Mixage, Alain Joubert. Stagiaire, Adèle Papin et Lucien de Bouvry. Attaché d'émission, Ève Etienne et Christine Gage. Coordination, Irène Omelianenko. Un documentaire de Michel-Ange Vinti et Christine Robert pour Sur les Docs.
Pero al final de todas solo tendrás dolor, te darán de los placeres frenesí, mas no ilusión sincera como la que te di, lo dudo, lo dudo. No dudo que hayas un amor más puro como el que tienes en mí, como el que tienes en mí.